I'm under your skin. I'm inside your head. I'd grow where you live. Can't get rid of me.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Par la puissance de sa pensée et le rayonnement de son enseignement, la France règne sur le monde contemporain.
Voici l'Algérie, devenue après un siècle une des plus belles, des plus florissantes provinces françaises. Les soldats qui les premiers vinrent dans ces nouveaux pays étaient en même temps agriculteurs, ingénieurs, colons. Ils tracèrent les premières routes, lancèrent les premiers ponts et se mirent courageusement à défricher les terres. Un glorieux témoignage de la grandeur de la France.
Nous ne venons pas apporter la guerre et récolter de nouveaux lauriers. Nous venons rétablir l'ordre, le travail et la tranquillité.
Toutes les armées du monde se sont toujours estimées fondées selon les lois de la guerre à fusiller comme franc-tireur ou espion quiconque s'attaque à elles en civil. Voilà les ordres que nous avions. On était en droit de fusiller tout individu pris les armes à la main en civil. Et personne ne se privait de le faire. Ça y allait.
Salut tout le monde et bienvenue à vous pour cette nouvelle conversation avec Pat, Pierre, Alban, Thomas qui vous emmène aujourd'hui dans l'Algérie de 1954. Salut Pat.
Bonjour Jean-Baptiste.
On l'a vu au précédent chapitre de cette saga, pendant l'occupation, Pat a été résistant, maquisard, franc-tireur partisan. Il a ensuite fait la guerre en Allemagne, puis en Indochine, où l'ex-résistant n'a pas supporté de se retrouver dans la peau d'un occupant venu maintenir un ordre colonial impitoyable et chasser d'autres résistants. 2 ans et demi d'Indo entre 45 et 47, et puis Pat est rentré en France. Vous voici en 1954, l'année du déclenchement de la guerre d'Algérie qui n'a pas encore commencé au moment où débute ce chapitre. Aussi étonnant que ça puisse paraître, contrairement à l'Indochine, quand Pat part pour l'Algérie, il n'a aucun questionnement et aucun doute quant à la légitimité de la présence française en Algérie. Pour Pat, comme pour la plupart des Français de l'époque, pas de doute, l'Algérie, c'est la France depuis 130 années, c'est comme ça. Pas de rapport entre les situations coloniales indochinoises et algériennes.
Oui, à nos yeux, ça n'avait rien à voir. On pensait que ces trois départements faisait partie de la France et que les Algériens avaient admis ça et qu'ils voulaient être français, on le croyait fermement. Et quand on est arrivé en Algérie, nous avons débarqué à Bonn le 14 août 1954. Pas très longtemps après les accords de Genève qui mettaient fin à la guerre d'Indochine. Et à Bonn, nous avons eu la surprise d'être reçus par le général Caille, qui était commandant en chef de toutes les forces armées françaises sur l'Algérie et qui était en même temps gouverneur militaire d'Alger. Et le général Caille nous a tenu ses propos. Il nous a dit « Messieurs, vous êtes ici dans un pays en or ». On le tient avec une poignée de gendarmes. Voilà ce que le général Caille nous a dit. Vous êtes venu ici, non pas pour y faire la guerre, Mais pour y faire de l'instruction, vous aurez des champs de tir à l'infini. S'il y a une nécessité de maintien de l'ordre quelque part, on vous y enverra, mais ça ne saurait être que quelque chose de secondaire.
Donc à ce moment-là, il est nullement question d'insurrection, d'embuscade, de Félaga et de choses comme ça.
Loin de nous cette pensée, hein, on n'imaginait pas du tout qu'on partait pour une autre guerre. Hein. On était là pour assurer l'ordre et pour faire de l'instruction, puisque c'était des départements français, on pouvait y circuler comme dans n'importe quel autre département français.
La France admet comme légitime et heureuse la diversité des civilisations qu'elle respecte. Tout Français est citoyen d'une France mondiale de 100 millions d'habitants. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale. Une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France.
En France, même s'il y a eu quelques violentes manifestations contre la guerre d'Indochine, l'opinion ne s'est pas beaucoup souciée de ce lointain conflit colonial, comme elle ne se souciera pas beaucoup de l'Algérie jusqu'au moment où trop d'appelés y seront tués. En 1954, avec les 40 à 50 000 soldats français tombés en Indochine, il existe une expression anti-guerre, notamment dans la chanson. Il y aura « Le déserteur » de Boris Vian, chanté par Mouloudji, tube de 54. Et il y aura aussi ce titre signé Jean-Claude Darnal.
Dans le canon de son fusil, il a mis une rose de son pays, que lui a donné Samy. C'est comme ça qu'il est parti, mon ami, mon ami. Tu serais mieux au paradis, car là-bas, à ce qu'on dit, une rose dure plus que la vie. Mon ami, mon ami, il ne faut pas t'en étonner, c'est à cause de l'éternité. Dans les cartouchières qu'il a touchées, il a mis les photos de ce qu'il aimait, sa vieille mère, sa jument, lui, en première communion. C'est comme ça qu'il est parti, mon ami, tu serais mieux au paradis, car là-bas, à ce qu'on dit, une photo dure plus que la vie. Mon ami, il ne faut pas t'en étonner, c'est à cause de l'éternité. Le képi qu'il a coiffé, il a mis de l'eau de pluie, et puis il a mis une grenouille de sa prairie. C'est comme ça qu'il est parti, mon ami, tu serais mieux au paradis, car là-bas, à ce qu'on dit, une grenouille dure plus que sa vie. Mon ami, il ne faut pas t'en étonner, c'est à cause de l'éternité. Quand l'ennemi est arrivé, il lui a opposé qu'un pétale de rose fané, une grenouille des souvenirs, en un mot des mots d'amour. C'est pour ça qu'il y est resté, mon ami, tu es mieux au paradis, car là-bas, à ce qu'on dit, les amours durent plus que la vie. Mon ami, il ne faut pas t'en étonner, c'est à cause de l'éternité, c'est à cause de l'éternité, c'est à cause de l'éternité.
Jean-Claude Darnal chante le Soudard en 1954, probablement en songeant à la guerre d'Indochine qui vient de s'achever. Quant à l'Algérie, Pat la découvre encore en paix, 3 mois avant le début de l'insurrection. L'Algérie, 3 départements français qui ne sont pas des départements français tout à fait comme les autres. Il y a en Algérie au moins 2 sortes de citoyens. D'une part, presque 1 million de Français de première classe, disons, qui ont le droit de vote, plutôt d'origine européenne, qu'on appelle les pieds noirs, et d'autre part, presque 9 millions de Français musulmans, citoyens de seconde classe, qu'officieusement on appelle les bougnoules, les crouilles, les melons, les bicots, plus tard on dira les fels. En arrivant en Algérie, Pat prend conscience de l'extrême misère dans laquelle sont plongés la majorité des Français musulmans.
Ce que j'ai vu, tout d'abord, ça a été comme en Indochine, des malheureux habitants en rayons, peut-être pas sous-alimentés, tout au moins, qui n'étaient pas heureux, puisque s'ils avaient été heureux, ils se seraient habillés un peu mieux. À mesure que l'on pénétrait dans les gourbis, on s'apercevait effectivement que c'était plus la misère que l'opulence, hein, de loin. Et ces gens ne se livraient pas, mais nous avions l'impression qu'ils voulaient être français. C'était l'impression qu'ils nous donnaient. Mais j'ai constaté assez rapidement que c'était uniquement de façade, parce que ils auraient bien voulu être français, d'accord, mais français à part entière, c'est-à-dire en ayant les mêmes droits, les mêmes devoirs que ceux que les Français de la métropole. Or ça, je me suis aperçu assez rapidement que ce n'était pas le cas et que c'était des Français de seconde zone.
Pat découvre aussi l'aberration du système électoral d'Algérie avec ses deux collèges où les voix de presque 9 millions de Français musulmans pèsent moins lourd que les voix de presque 1 million d'Européens.
Oui, il y avait à ce moment-là, il n'y avait pas encore 1 million, mais il y avait 800 000 Européens, disons, d'origine européenne. Hein. Des Maltais, des Espagnols, il y avait des Français, mais enfin, la plupart étaient des Méditerranéens qui avaient la nationalité française. Il y avait donc ces gens-là, environ 800 000, et puis il y avait près de 100 000, je crois que c'est 80 000 à peu près, musulmans qui avaient un statut similaire à celui des Européens. C'était des gens que le gouvernement français pouvait avoir toute confiance, parce qu'ils avaient fait leurs preuves, ils avaient donné des gages de leur attachement à la France, soit parce que c'était des anciens combattants, soit parce qu'ils avaient des fonctions en Algérie qui les mettaient vraiment au garde-à-vous face à l'administration française.
Tout entière a voté. Avec M. Gazagne, maire d'Alger, 2 millions d'électeurs sont allés aux urnes. Les premiers, citoyens français et notables musulmans, votant pour le premier collège, où les candidats unis par l'idéal républicain et français sont arrivés en tête. Les autres musulmans, votant pour le second collège, où les partisans de Messali et de Ferhat Abbas ont essuyé un échec. Premier résultat, la raison triomphe en Algérie.
La raison des tenants de l'apartheid à la française est d'autant plus forte que les élections d'Algérie sont souvent grossièrement truquées. Pat découvrira que les fraudes électorales sont monnaie courante. Un exemple de bourrage d'urnes organisé par les tenants du système colonial.
Il y a pas mal d'exemples, mais enfin, il y en a un qui est particulièrement net. Il s'agit de M. Pucédu, secrétaire général de la commune mixte de La Verdure, me parlait un jour très librement, parce que s'adressant à un capitaine de l'armée française, il ne pouvait pas supposer un seul instant qu'un gradé puisse être autre chose qu'Algérie française. Donc, il me dit entre autres, il dit, c'était pas difficile du tout pour avoir des musulmans qui soient acquis à notre cause. Il suffit de s'arranger avec les urnes. Par exemple, on avait toujours deux jeux d'urnes. Il y en avait toujours un qui était préparé à l'avance avec une grande majorité de bulletins en faveur de l'Algérie française. Et puis l'autre qui était celui qui était livré à l'élection. Lorsque l'élection était terminée, il y avait une voiture qui s'en allait à partir de La Verdure vers Soukaras, qui transportait le jeu d'urne contenant les bulletins qui avaient été déposés par les citoyens au cours de l'élection. Et puis, il y en avait un deuxième jeu préparé à l'avance. Il suffisait, en cours de route, comme il y avait une voiture qui allait dans un sens, l'autre dans l'autre, on faisait l'échange des urnes. Et puis, quand on arrivait au dépouillement, on avait une très forte majorité pour nous. Il rigolait en me disant ça, en disant, vous voyez, c'était pas difficile du tout. Hein. Il dit, c'était normal. Il dit, il fallait quand même bien qu'on ait la majorité. On pouvait pas se permettre d'être mis en minorité. Donc, voilà comment procéder.
C'est digne d'une république bananière. Enfin, il n'y a pas de démocratie en Algérie française.
Oui, ça, c'en est une preuve. Mais j'ai lu des ouvrages que je cite dans mon livre qui racontent des choses semblables. On en arrivait quelquefois à avoir un nombre de bulletins supérieur au nombre d'inscrits. Parce qu'il y avait eu des erreurs de fait au cours de la manipulation.
Pour compléter le tableau de cette Algérie française, la corruption et les bakchiches qui rongent l'administration de la colonie.
J'en ai entendu parler à de nombreuses occasions, mais il y a un personnage qui m'a donné des précisions énormes là-dessus, c'est M. Guissot, administrateur adjoint à Tébessa, et qui après ça a été administrateur à Boussaada, que j'ai retrouvé par la suite l'année suivante. Il m'a donné des tas d'exemples qui figurent dans mes livres, sur lesquels partout dans toute l'administration, il y avait une corruption. Il fallait donner de l'argent pour obtenir un papier, pour obtenir un certificat, pour obtenir un laissez-passer, etc.
Parmi les faux clichés que certains colportent sur l'Algérie française, le mythe d'une société égalitaire et fraternelle où pieds noirs, juifs et musulmans vivaient en harmonie comme des frères. Rien n'est moins vrai. La société algérienne de 1954 est depuis 130 ans une société coloniale, inégalitaire, cloisonnée, où les populations cohabitent, chacune dans son quartier, mais ne se fréquentent que très rarement.
Dans de nombreuses régions, autrefois désertiques, où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie.
Ces actualités de 1937 oublient évidemment qu'en 1830, la France conquiert l'Algérie par le massacre, le viol et le pillage. Souvenez-vous par exemple des enfumades du Dara de 1845. En colonisant, l'armée française va assassiner un tiers des habitants de cette terre qui n'est pas encore l'Algérie. Un tiers. Ces meurtres de masse vont laisser des traces. Assassinés, violés, asservis, les indigènes ont été brisés, soumis, réduits à la misère et à l'exploitation. Mais, généreuse, la France enseigne aussi son liberté, égalité, fraternité à quelques-uns. Bien qu'ayant constaté la misère des indigènes, Pat a-t-il vraiment la pleine conscience de l'injustice de cette situation coloniale ? Si la France a traité l'Indochine comme colonie d'exploitation, destinée au pillage de ses ressources naturelles, l'Algérie est-elle aussi une colonie de peuplement ? Près d'un million d'Européens avec des cartes d'identité françaises. Et puis, depuis 130 ans, on enseigne aux élèves que l'Algérie, c'est trois départements français. On enseigne aussi que les indigènes sont des êtres inférieurs à qui il faut apporter les lumières. À noter enfin que cela fait déjà 10 ans que Pat est militaire de carrière. L'armée n'est pas un milieu progressiste. Immergé dans la grande muette, l'ex-résistant a-t-il perdu la clairvoyance anticoloniale qui lui a fait haïr la guerre d'Indochine ? Le capitaine Thomas est envoyé sur le terrain pour participer au maintien de l'ordre colonial.
C'était en 55, on faisait ce qu'on appelait de la nomadisation. On nous avait envoyé dans la région de Borj Bouareridj. C'était au sud de la Kabylie. À partir de là, on est monté vers l'intérieur des terres et on est arrivé à un petit village. Et là, j'ai parlé avec des habitants, on a lié conversation, on est resté tout l'après-midi ensemble à parler. Il y en a d'ailleurs un qui toussait beaucoup et qui m'a dit « Moi, j'ai attrapé la tuberculose en travaillant dans les hauts fourneaux en France. J'aurais voulu avoir une pension, mais on ne m'en a pas donné. » Ça, c'est encore une chose qui m'a pas fait tellement plaisir pour la France. Et il y en a d'autres qui m'ont dit « Mon capitaine, tu peux pas nous avoir du travail parce que nous, on n'en a pas de travail. On est malheureux, on n'a pas d'argent pour vivre parce qu'on n'a pas de travail. » Et alors, à ce moment-là, j'ai avisé le terrain sur lequel on se trouvait. J'ai vu qu'il y avait une source qui se répandait un peu partout dans une sorte de marécage, là. Alors, je leur ai dit, mais dites donc, les gars, votre source, là, elle vous fournit de l'eau. La terre, le marécage qu'il y a autour, c'est de la bonne terre. Prenez des pelles, prenez des pioches, bêchez tout le coin, une irrigation de la terre, et puis plantez, semez, et vous récolterez là-dedans. Alors, ils m'ont dit, ah oui, t'as raison. Et puis, je suis repassé une dizaine de jours après. Les bons hommes étaient toujours en train de se chauffer, là, au soleil. Et puis, la source, elle n'avait pas bougé. Ah, alors là, je leur ai dit, vous êtes des paresseux. Je me suis mis à les engueuler. Dit, vous êtes des fainéants. Vous pouviez quand même faire un effort et puis travailler. Parce que moi, je ferai rien de mon côté pour vous aider si vous ne faites rien du vôtre. Oui, c'est ça. Il y en a un qui savait plus quoi dire. Il m'a dit, oui, mais dit, nous, on est long à se décider. Mais ils m'avaient bien dit avant qu'ils avaient été chassés de leur terre par les colons français, que eux, leurs grands-parents, avaient de bonnes terres dans la plaine. On les avait chassés de là, et s'ils étaient venus se réfugier dans ce village de la basse montagne, c'était justement parce que leurs parents et leurs grands-parents avaient été chassés de leur terre, qui, elle, était fertile, et dans lesquels les colons français maintenant semaient du blé, semaient des céréales, et puis cultivaient tout ce qu'on peut imaginer comme bon produit.
Engagé 35 mercenaires et puis payez-les donc rubis sur l'anglais, puis qu'ils retournent toute la terre de la terre, et puis fouillez donc sous ses jupes aussi. Frottez-lui les fesses au gros sel, et puis casez-le dans un lit de fer, et puis réduisez le son de sa voix, et puis transformez sa nuit en enfer ainsi. Tuez dans l'œuf la chanson, et puis faites donc taire votre voisin aussi. Éteignez toutes vos lumières, et puis empoignez les franges du rêve aussi. Usez-lui les mains au labeur, et puis casez-le dans un lit de fer aussi. Réveillez tant bien quelque peur, et puis faites en prie développer le pays. Jetez-le vers les bras d'une femme, et puis qu'il retourne à son labeur ainsi. Jour de gloire pour le tirailleur aussi. Allons-y en silence ainsi. Allons-y en silence ainsi. Allons-y en silence ainsi. Allons-y en silence ainsi.
Jour de gloire pour le général Alcazar, avant de revenir vers Pat qui découvre la misère et l'inégalité de l'Algérie française, société d'apartheid sous le drapeau de la République. Liberté, égalité, fraternité, la plupart des indigènes sont incapables de comprendre ces mots. La France, qui devait leur apporter les Lumières, ne leur a même pas appris la langue française. Dans l'Algérie de 1954, seulement un petit indigène sur quatre est scolarisé.
Oui, c'était courant. Dans les mechtas éloignés, on parlait aux enfants, ils ne parlaient pas le français, ou à peine. Alors que dans les localités, ils parlaient couramment le français, enfin couramment, très bien le français, quoi. Parce qu'ils allaient à l'école, et puis les autres, dans les mechtas reculés, dans le Tchebel, ils n'y allaient pas. Vraisemblablement, je n'ai pas fait les calculs, mais enfin, les historiens les ont fait, on devait arriver au total pour toute l'Algérie à 75% d'enfants qui n'étaient pas scolarisés. Ça doit être à peu près ça.
Pendant les années de guerre, l'État français a redoublé d'efforts en ce sens, puisqu'il y a des soldats très particuliers qui étaient les SAS.
Section administrative spécialisée.
Qui faisaient de l'enseignement, qui faisaient de la médecine.
Pas tout à fait. C'était, comme le nom le dit, administrative, c'est-à-dire qu'ils suppléaient à tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une ville pour s'occuper des affaires générales, sociales, administratives et autres des populations éloignées. Ces gens-là étaient généralement des hommes remarquables. J'en ai connu plusieurs qui étaient très proches de la population, qui se rendaient compte de la misère dans laquelle beaucoup d'Algériens, la majorité des Algériens vivaient, et qui cherchaient à leur venir en aide par tous les moyens possibles. Ces gens-là avaient une véritable vocation, parce que on était SAS que par volontariat. Il n'y avait pas de désignation d'office, c'était uniquement des volontaires. Donc c'était des gens qui avaient foi en ce genre de mission.
Et au cours de quelques années, grâce au travail notamment de ces gens-là, on a réussi à scolariser des dizaines de milliers d'enfants. Alors évidemment, on n'a pas rattrapé le retard scolaire qu'il y avait, mais quand la France a décidé de mettre un coup de rein sur ces questions-là, elle a pu le faire, et elle l'a fait. Bon, c'est évidemment trop tard.
Eux n'avaient pas les moyens matériels d'éduquer les enfants. Il faut pour ça, c'était le rôle de l'éducation nationale qui aurait dû, en accord avec les SAS, le faire. Mais il y avait, dans tous les bataillons où le chef de bataillon était un homme de bon sens, il y avait des instructions qui étaient données au commandant de compagnie pour qu'il détecte parmi eux de jeunes instituteurs appelés et qui ouvrent des écoles pour les enfants du Djebel. Dans les villages, il y avait l'école, et tous les enfants pouvaient y venir normalement. Il y avait quelquefois des classes surchargées, et les enfants étaient obligés de travailler uniquement le matin ou uniquement l'après-midi. C'était dû au manque de locaux. Mais dans le Djebel, il n'y avait pas tout ça. C'était quelquefois à 10, 20 kilomètres des communes. Le rôle des jeunes appelés a été vraiment important parce qu'il y a eu des écoles d'ouvertes. Moi, j'en ai ouvert deux écoles, une au Douara Maria, une autre à Mzaourat. Les parents étaient heureux et fiers que leurs enfants aillent à l'école parce que ils disaient, nous voulons qu'ils soient instruits. Ils les voyaient déjà médecins ou gendarmes ou autres. Ils ne se rendaient pas compte qu'il fallait quand même plusieurs années d'instruction pour y arriver. Mais c'était quand même leur désir.
Misère, exploitation, analphabétisme. Inutile de préciser qu'en 1954, la situation de la femme algérienne n'est pas meilleure que celle de la femme française. Anecdote délirante à ce sujet, quand Pat le soldat jouait les justiciers féministes.
Oui, j'avais déjà remarqué plusieurs fois que les Arabes étaient machos. J'étais à proximité d'une petite route qui s'en allait vers les Douars. Je vois arriver un bonhomme, un arabe, sur un bourricot qui pliait sous la charge, à tel point que les pieds du grand diable traînaient par terre. Et puis derrière, une petite bonne femme malheureuse, sur sa tête, un fagot. Oh là là, je dis, c'est pas possible. J'ai appelé deux de mes gars, j'ai dit, oui, faites-moi descendre le bonhomme de son bourricot. Mettez-le derrière l'âne avec le fagot que porte la femme sur la tête et installez la bonne femme sur le bourricot. Évidemment, devant la force, le bonhomme, il avait été obligé de s'exécuter. Et il a marché derrière, pas fier du tout. Puis la bonne femme, sans aucune expression sur son visage, autant que je ne me souvienne, ils sont partis comme ça tous les deux, la bonne femme devant, la cheval sur le bourricot, puis le bonhomme derrière portant le fagot.
C'est une épouvantable humiliation.
Il devait être horrifié, le bonhomme. Alors, aussi longtemps...
La bonne femme a dû se prendre une sacrée dérouillée dès que vous avez tourné le dos.
Je ne sais rien, parce que tant, aussi longtemps que notre champ de vision a pu les apercevoir, ils sont restés comme ça. Mais je suis sûr qu'après, chacun a repris sa place normale pour un oriental. Hein.
Capitaine Thomas, il y en a bon blanc, hein.
Pour résumer la situation en Algérie, il y a donc presque 9 millions de Français musulmans, sujets de seconde classe. Il y a aussi presque 1 million de pieds noirs, pleinement citoyens français. Il y a enfin une très ancienne communauté juive, dont les membres sont également citoyens français à part entière. Mais ne croyez surtout pas que tous les pieds noirs étaient de riches colons. La plupart des pieds noirs étaient de petites gens issus de l'immigration.
Il y a l'Algérie des gens riches et puis l'Algérie des gens pauvres. Les gens riches, il y avait parmi eux, bien sûr, une majorité d'Européens, et puis il y avait un certain nombre de personnalités algériennes, autochtones, musulmanes, qui étaient des gens riches, hein, des bachagas, des agas, des caïds, etc., et d'autres qui avaient des fonctions importantes. Il n'y en avait pas énormément, mais enfin, il y avait environ 80 000 qui avaient le droit de vote au même titre que les Européens. Et ça, c'était un clivage avec les gens pauvres. Mais les gens pauvres, c'était une très grande majorité d'Algériens de naissance, quoi, ceux qu'on appelait les Français musulmans. Mais il y avait aussi des petits blancs, hein, des petits Européens qui n'étaient pas plus heureux ou guère plus heureux que la moyenne des Arabes. Hein. Il y avait des grandes familles, les Borgeot, Blachette, etc., quoi, qui étaient des grandes familles qui avaient la main mise sur l'économie algérienne. Et puis il y avait à côté de ça, bah, tous les petits blancs qui trimaient. Entre les deux, il y avait toute une catégorie avec un certain éventail de gros colons et puis de petits colons. Parmi les gros colons, j'en ai connu à Dublino, où j'étais à mon deuxième séjour, qui avaient des fermes importantes, et ces fermes étaient plantées pour la majorité d'entre elles d'orangers. Et à partir de ces plantations, ils avaient des ouvriers qui travaillaient pour eux. Et puis, ils expédiaient des cajots en grand nombre d'oranges un peu partout en France et dans d'autres pays d'Europe. Il y avait une certaine catégorie d'habitants qui s'entendaient bien. Des Européens, des Arabes, des Juifs, mais il y avait à côté de cette catégorie qui n'était pas la majorité, mais qui était quand même importante, il y avait ceux qui exploitaient et ceux qui étaient exploités. Certains moyens colons qui faisaient suer le burnous, et puis il y avait toute une petite population qui était sous-payée. Ils étaient sous-payés à tel point que Massu raconte que lorsque les premières unités de légionnaires sont arrivées en Algérie, même les légionnaires ont été outrés de la façon dont étaient traités les Arabes. Et ils ont voulu que là où ils étaient, les salaires soient relevés. Je crois que c'est à Zeralda, il me semble bien me souvenir. Les colons du coin ont traité les légionnaires de communistes, à ce point-là. Alors ça, c'est Massu qui raconte ça, hein. Alors, ça doit pas être faux, hein, puisqu'il l'écrit dans un de ses livres.
Quelque chose que tu racontes dans ton bouquin « Les désarrois d'un officier en Algérie », c'est que beaucoup d'Algériens musulmans sont dans la misère parce qu'ils n'ont pas accès au travail. On fait venir parfois de la main-d'œuvre du Maroc ou de Tunisie encore moins cher que les Algériens.
Devant la concurrence de cette main-d'œuvre moins chère, des tas d'Algériens musulmans sont au chômage et donc en haillons.
Dans la description de Massu, les légionnaires avaient remarqué que certains colons faisaient venir de la main-d'œuvre du Maroc qu'ils payaient moins cher que la main-d'œuvre autochtone. Il y avait par exemple des soufis qui venaient de la région sud des Aurès, que l'on faisait travailler à vil prix parce que ces gens-là étaient tellement malheureux qu'ils acceptaient le travail à des tarifs de misère. Je me souviens d'un villageois qui était ancien combattant de 39-45 et qui est venu me trouver. J'étais à Clairefontaine à ce moment-là. Il y avait à proximité les mines de fer de Louenza. Mon capitaine a dit « Tu pourrais pas me faire engager à la mine de Louenza ?» parce que c'est bien payé, et moi j'ai pas de travail, j'y suis malheureux. Quand je demande, moi, à être engagé à la mine de Louenza, on me répond toujours, il n'y a pas de place, passe plus tard. Et puis je m'aperçois qu'il y a des Italiens qui viennent et qui sont payés, bien payés. J'y sais pas conduire, mais je peux apprendre, hein, et puis je veux bien travailler, mais je sais pas aussi bien que les Italiens, mais... Moi, pendant la guerre, j'ai fait la guerre à Cassino contre les Italiens. J'ai combattu les Italiens. Et puis maintenant que la guerre est finie, on devrait me récompenser d'avoir combattu les Italiens. Eh ben non, on me dit il n'y a pas de place. Voilà, alors c'est pas juste.
On peut mourir au front et faire toutes les guerres et beau défendre aussi joli drapeau. Il en faut toujours plus, pourtant il y a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur.
Comme pour l'Indochine, Pat réalise donc qu'en Algérie, une poignée de riches s'engraissent sur le dos des pauvres, notamment sur le dos des Français musulmans, et aussi sur le dos de l'essentiel des pieds noirs, dont la plupart sont de petits blancs, blancs souvent assez basanés d'ailleurs. Comme pour l'Indochine, il y a eu de nombreuses organisations politiques chez les indigènes colonisés, dont certains partis francophiles qui demandaient non pas l'indépendance, mais tout simplement d'être des Français à part entière, avec les mêmes droits que les autres citoyens français. Or, en Algérie française, société coloniale, inégalitaire, raciste, l'égalité est bien entendu impensable pour les riches profiteurs. Elle est aussi impensable pour nombre de petits blancs dont le racisme naturel est parfois exacerbé par leur propre pauvreté. Comme pour l'Indochine, ces interlocuteurs francophiles qui ne demandent que l'égalité seront stupidement bâillonnés et emprisonnés par la France. Or, cette France de l'après-guerre a beaucoup perdu de son aura auprès de ses sujets coloniaux, d'autant plus que la métropole a été libérée, notamment par ces Français musulmans, pendant que la plupart des Gaulois étaient eux prisonniers en Allemagne à attendre le débarquement. Comme pour l'Indochine, Pat constate qu'entre la France et l'Algérie, quelque chose de grand a été volontairement raté et massacré, toujours les mêmes victimes, au profit d'une poignée de parasites obtus. La paix d'Algérie était autrement plus prometteuse que cette guerre.
Oui, il y avait déjà eu des tentatives pour essayer de composer avec ces gens qui voulaient rester français, mais avec des droits et des devoirs autres que ceux qu'on leur accordait. Avant la guerre, il y avait déjà eu des tentatives, mais ça avait été vite réprimé par tous les ultras, hein, qui voulaient conserver leurs privilèges. C'était les accords violettes, je crois, Blum violette. Ces accords-là avaient été tués dans l'œuf. En 45, il aurait pu être possible de les reprendre. D'ailleurs, c'était ce que réclamaient les anciens combattants surtout, mais aussi une partie de la population, lorsqu'ils ont manifesté le 8 mai 1945 à Sétif, à Kerata et puis à Guelma. Et là, au lieu de prendre leurs réclamations en considération, on leur a rentré dans l'art et puis on en a tué pas mal. Il y a toute une histoire là-dessus.
malheureuse, terrible d'ailleurs, du 8 mai 45. C'était une mévue de la part de la France. Hein. On n'a pas saisi la balle au bon. Hein. On aurait pu, à ce moment-là, faire en sorte que l'Algérie reste amie de la France, alors qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour l'éloigner de nous.
Depuis 5 quarts de siècle, Français d'origine française et Français musulmans voisinent sur cette terre, collaborent. Ils ont connu la grande et noble fraternité des champs de bataille et le sceau des sacrifices communs et sanglants.
Edgar Faure.
Nous avons 3 départements français en Algérie.
Président du Conseil.
Nous avons ouvert à tous les habitants de l'Algérie les portes de la métropole, les possibilités du travail, le droit de vote.
1955.
La possibilité de suivre la même voie que nous. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et nous ne le ferons pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là-bas ? Il ne s'agit pas là de respecter une nationalité, de faire évoluer une souveraineté, d'aménager une démocratie étrangère. Eh bien, il s'agit de faire l'intégration.
La responsabilité de cette guerre inutile, la responsabilité de cette paix manquée, n'est pas que le fait de la droite française, forcément du côté des exploiteurs coloniaux. La responsabilité de cette guerre est aussi celle des socialistes de l'époque. Mendès France, Edgar Faure, Guy Mollet, pourtant SFIO, supposés de gauche, seront d'ardents promoteurs de la guerre. De 1914 à nos jours, en passant par tous les conflits coloniaux, les soi-disant socialistes français ont toujours aimé la guerre. Dans une course cocardière et nationaliste avec la vraie droite, ils ont toujours trahi leurs idéaux supposément socialistes au profit des possédants et du capital.
La plus belle illustration, c'était après le 1er novembre 1954, lorsque il y eut une rébellion concertée entre les dirigeants, qui n'étaient pas très nombreux d'ailleurs, hein, les dirigeants de ce qui est devenu par la suite le FLN. Lors de cette Toussaint Rouge, comme on l'a appelé, la réaction du gouvernement français de Mendès France a été de dire « il faut châtier tous les rebelles, car l'Algérie, c'est la France ». Et puis Mitterrand en a rajouté une couche. Peu après, il était ministre de l'Intérieur, si mes souvenirs sont exacts. Il a repris la phrase « la France de Dunkerque à Tamanrasset ». Et c'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais enfin c'est à peu près ça. Dans cette France-là, il n'y a qu'une seule loi, celle de la République, et tous ceux qui violent cette loi doivent être châtiés.
Nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme une sorte d'état de guerre. Nous ne voulons pas.
François Mitterrand.
Mais nous châtierons.
Décembre 1954.
D'une manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur des responsables. Et tous ceux qui seront surpris, agissant d'une façon évidente par le moyen des armes contre l'ordre, doivent savoir que le risque pour eux est immense. Si nous le regrettons, puisque ce sont nos concitoyens, ils sont soumis, comme tout criminel, à la loi. Et la loi sera appliquée. Voilà ce que je vous dis au nom du gouvernement.
François Mitterrand, grand homme de gauche, paraît-il, décoré de la Francisque sous l'occupation, et en 1954, ministre de l'Intérieur, partisan de la répression. Ce en quoi il n'a rien d'original. Depuis 130 ans, c'est dans la brutalité la plus sanglante que la France mate toute révolte indigène.
Je relis là le texte de François Mitterrand. D'après une expression de Robert Buron, qui était ministre MRP de l'Information, François Mitterrand rivalisait avec Mendès France de nationaliste cocardier. Et Mitterrand disait « L'Algérie, c'est la France, des Flandres au Congo, c'était pas de Dunkerque à Tamanrasset, mais lui, il avait repris la formule « des Flandres au Congo, il y a une loi ». Une seule nation, un seul parlement. C'est la Constitution et c'est notre volonté. Le gouvernement veillera à ce que nos concitoyens d'Algérie sachent qu'ils ont une espérance et que cette espérance est française. Nous ferons tout pour que le peuple algérien, partie intégrante du peuple français, se sente chez lui comme nous
Et parmi nous, voilà un homme qui s'est dit après ça socialiste, hein, et après avoir été pétiniste, il ne faut pas l'oublier, voilà ses propos. Et il n'y avait que le Parti communiste français qui tenait un discours totalement différent. Il avait, je crois que c'est le 8 novembre, une semaine après les événements de la Toussaint Rouge, hein, il avait fait paraître un texte. Premièrement, il faut arrêter immédiatement la répression. Deuxièmement, il faut reconnaître le bien fondé des revendications du peuple algérien. Troisièmement, il faut discuter de ces revendications avec les représentants qualifiés. Voilà ce que le PC disait. Mais, chose qu'on ignore beaucoup trop, c'est que parmi des gens qui connaissaient bien l'Algérie, il y en avait qui étaient lucides. Je vais en citer deux. L'un, c'était le docteur Jean-Claude Pérez. Ça dit peut-être quelque chose à certains, parce qu'il est devenu OAS par la suite, lui. Voici textuellement ce que le docteur Pérez a déclaré au micro de Patrick Gélinet. « Jamais je n'aurais accepté de me trouver dans une collectivité dominée par une autre. Je comprends l'attitude d'un musulman qui toute sa vie n'a pensé qu'à combattre le conquérant. » Voilà. Et il y en a un autre qui est devenu également OAS et qui s'appelait le capitaine Sergent, déserteur de l'armée française, pour passer à l'OAS. Et voici ce que le capitaine Sergent, et il a dit ça, c'était dans les premiers jours de novembre 54. Cela ne fait aucun doute, la rébellion qui éclate est de même nature qu'en Indochine. La force de l'adversaire est d'opposer à nos armes le poids de la conscience universelle en utilisant la puissance explosive de ses idées, son arsenal le plus redoutable. C'est dans une interview, le capitaine Sergent, qu'il a accordé au journal Le Crapouillot, qui est de droite, hein, en avril 87, très exactement.
On l'a vu, avec le massacre d'un tiers de ses habitants lors de sa colonisation en 1830, l'Algérie a déjà derrière elle une histoire lourde de 130 années de violences aveugles commises par le colonisateur, mais au nom de la civilisation. Pat vous en a déjà parlé, cela fut le cas le 8 mai 45 à Sétif. Le jour même où la France fêtait sa libération, elle massacrait près de 15 000 indigènes, peut-être 20 000, événement que Pat ne découvre qu'en 1954.
Oui, en 1945, on avait vaguement su, moi j'étais à l'époque en occupation en Allemagne, au sein de l'armée française, on avait vaguement entendu dire qu'il y avait quelques révoltes, mais c'était quand même quelque chose de relativement courant, des révoltes, c'était pas une rébellion, c'était pas une insurrection, c'était juste des mécontentements et puis une répression qui nous semblait passagère et logique, qui nous semblait, hein. C'est tout ce qu'on savait. En 54, donc pas mal d'années après, moi je ne savais pas plus, hein, et nous avons été invités un jour qu'il y avait une cérémonie à Tebessa. L'un des musulmans, Abdelmajid Meshri, dont un oncle était Bachaga à El Meridj, et l'autre avait une fonction à l'Élysée. Et donc, monsieur Meshri, avec lequel j'ai commencé à parler au cours de la cérémonie, s'est aperçu qu'il avait affaire à quelqu'un qui était très réceptif. Et il m'a dit, bon, bah, écoutez, venez donc un jour. On a convenu d'une date. À la date convenue, on y est allés tous les à trois. On était remarquablement bien reçus. C'était un intérieur très cossu, avec des tentures, des poufs, des tapis. Enfin, vraiment, c'était... On n'avait pas affaire à n'importe qui et c'est très différent de ce qu'on pouvait voir dans les gourbis. On a bavardé. regardé, puis on en est venu à parler des événements de 1945. C'est lui qui nous a dit « Savez-vous exactement ce qui s'est passé en 1945 ?» On a fait un peu la moue, on n'avait pas souvenance de ce qui pouvait s'être passé, sinon c'est vague révolte, mais enfin... Alors lui, il a dit « Bon, bah, écoutez, je vais vous expliquer. » Pour le 8 mai 1945, il y avait un certain nombre d'anciens combattants qui voulaient obtenir les mêmes droits que leurs camarades français. C'était des anciens combattants. Leur pension était 7 fois inférieure à celle des métropolitains. Alors ils disaient, c'est pas juste, nous, sur les champs de bataille, on a couru les mêmes périls ensemble. Pourquoi est-ce que maintenant, on nous donne 7 fois moins de pension que les autres? C'est pas juste. Et alors, ils ont brandi des pancartes pour réclamer leurs droits. Et puis, se sont joints à eux d'autres qui réclamaient d'autres droits que les Européens avaient et qu'eux n'avaient pas. Tout ça aidant, ils ont fait un cortège très impressionnant dans ces 3 villes-là, Sétif, Guelma et Kerata. Et puis, ils se sont glissés parmi eux d'autres qui étaient ceux-là des nationalistes et qui ont brandi des drapeaux qui sont devenus par la suite les drapeaux de l'ALN, qui ont réclamé l'indépendance. Alors là, la police française est intervenue, a voulu saisir des drapeaux. Eux ont résisté, n'ont pas voulu les rendre. Alors il y a eu des coups de feu déchangés. Il y a eu plusieurs porteurs de drapeaux qui ont été abattus. Il y a eu des échanges de coups de feu entre certains d'entre eux, ces nationalistes qui étaient armés. Et puis ils sont partis dans leur ferme, ils ont recruté des amis et ils sont descendus dans les villes peuplées de Français. Et puis là, ils ont massacré. Il me semble me souvenir que c'est 78 Français d'origine, plus une trentaine d'Algériens collaborateurs. Il y a eu une réplique immédiate sur toutes les populations voisines. Le chiffre officiel a été de 1200 et quelques victimes algériennes. Le FLN, par la suite, eux ont évalué ça à 30 000, mais c'est beaucoup exagéré. Et les historiens sérieux disent qu'il y a eu entre 12 000 et 15 000 morts, ce qui est déjà énorme, hein, parmi la population civile. C'est une réaction plus que brutale. Et c'est le général Duval qui était chargé de cette mission de représailles. Il a été applaudi par toute la population européenne qui a dit « bravo, bravo, là, ça va les mater un peu ». Le général Duval a même ajouté « Je vous donne la paix pour au moins 10 ans ». Il ne s'était pas trompé. On était abasourdi par cette révélation, d'autant plus abasourdi qu'on nous l'avait caché. Pourquoi on nous a caché tout ça? C'est pas bien. Et on est en démocratie, on aurait dû savoir. Eh bien non, c'était le blackout.
Le 8 mai 1945, ce sont aussi les premières émeutes en Algérie qui réclament l'indépendance.
Journal télévisé.
Et le massacre de plusieurs milliers d'Algériens commença dans le Constantinois, Sétif.
8 mai 2005.
Au total, 20 000 morts algériens, Sétif, c'est sans doute le massacre qui débouchera 10 ans plus tard sur la guerre d'Algérie.
Les émeutes font une centaine de victimes parmi les Français, mais la répression sera d'une brutalité extrême, 15 à 20 000 morts algériens.
Aux actualités cinématographiques, pas un mot des émeutes de Sétif. À cette époque, en France, on est très colonial. Seul geste de la métropole après-guerre, Paris renvoie en Algérie avec les honneurs les corps de ses soldats d'outre-mer. Les pionniers de l'indépendance algérienne, Messali Hadj, tout comme Ferhat Abbas, député de Sétif, ont compris. Les Algériens, malgré leur contribution à la victoire, ne seront jamais français. Alors grandit la revendication d'indépendance.
Les événements d'Algérie, car ce n'est qu'à partir de 1999 qu'on reconnaîtra officiellement cette guerre, ces événements donc démarrent le 1er novembre 1954 quand un commando algérien attaque un bus et exécute certains de ses passagers.
L'heure
troublé en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulées les obsèques des trois soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Tippenfell, au cours duquel son mari fut tué. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. On parle de Fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs.
Où es-tu quand éclate l'insurrection au 1er novembre 1954 ?
Je suis à ce moment-là à Clairefontaine. C'est un petit village à côté des mines de Louenza. Je suis commandant de compagnie.
Il y a combien d'hommes dans une compagnie ?
Entre 100 et 150. Dans notre petit coin, là, c'est calme et on n'a aucune manifestation de cette rébellion. On l'apprend par les journaux, on l'apprend par des BRQ, c'est-à-dire des bulletins régionaux quotidiens qui peuvent nous être diffusés, mais pratiquement sur le terrain, on ne sait rien.
À partir de quand ça va commencer à ressembler à la guerre pour toi ?
Bon, à partir de l'année suivante, hein, jusque-là, c'était que des petites escarmouches de rien du tout, insignifiantes, quoi. Mais à partir de 55, on a déjà affaire à des embuscades, à des actions militaires de la part des opposants qui nous montrent qu'il y a une organisation qui se crée et qu'il faudra compter avec.
Dans l'Aurès encerclée, les opérations de ratissage se poursuivent. Secteur par secteur, la montagne va être contrôlée jusque dans ses moindres recoins pour y faire renaître le calme et la sécurité. Un important engagement a eu lieu dans les environs de Troupe, où une unité parachutiste a pénétré dans le village d'Akrich en flammes. Les hors-la-loi ont laissé quelques morts et plusieurs blessés. Ratissage dans la montagne, interrogatoire des suspects, vérification d'identité des habitants, appel aux populations à se réfugier dans les secteurs de sécurité, toutes ces mesures ne manqueront pas de ramener le calme dans l'Aurès. Déjà, des groupes descendent de leur meshta perdue. On attend la population entière du Douar Ishmoul. Premières annonces, espère-t-on, de la fin de la crise.
Quand on est arrivé en Algérie, la plupart de mes camarades et moi-même, on pensait que les Algériens voulaient être français, hein, et que tous ceux qui s'y opposaient, c'était des terroristes, c'était des rebelles, c'était des gens, on n'appelait pas ça des terroristes encore, mais on disait des hors-la-loi, des HLL, ou des rebelles.
Comme pour la guerre d'Indochine ou comme pour l'occupation de la France par les nazis, les consignes sont claires. Tout individu n'appartenant à aucune armée officielle et portant une arme peut être exécuté sur le champ. En un mot, l'armée peut fusiller des civils sans jugement.
Exactement. Il n'y avait rien de changé encore. Il a fallu attendre 59 pour qu'il y ait une modification en faveur des résistants qui pouvaient être assimilés à des combattants. Mais jusque-là, avant 59, on considérait toujours que ceux qui combattaient sans uniforme étaient des francs-tireurs. Je relis ici le texte qui nous était fourni par la hiérarchie, texte classique de la contre-guérilla, texte qui a été diffusé dans une note du gouverneur général Jacques Soustelle, datée du 19 mars 1955, on peut y lire en toutes lettres, « Toutes les armées du monde se sont toujours estimées fondées selon les lois de la guerre à fusiller comme franc-tireur ou espion quiconque s'attaque à elles en civil. » Voilà,
les ordres que nous avions. Il faut pas l'oublier, ça. Il y a des gens qui croient que ce n'était pas ça la règle, mais c'était ça que nous avions comme consigne. Certaines étaient écrites, d'autres étaient verbales. On était en droit de fusiller tout individu pris les armes à la main en civil. C'était un rebelle, ce qu'on appelait un HLL, c'est-à-dire hors la loi. Et personne ne se privait de le faire, hein. Ça y allait.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette première conversation avec Pat autour de sa guerre d'Algérie. Quelques chiffres avant de se quitter. Si la guerre d'Indochine a coûté entre 40 et 50 000 morts français et près de 500 000 civils vietnamiens tués, les 9 années de guerre d'Algérie tueront environ 27 000 soldats français, en blesseront 65 000. Côté algérien, on parle de la mort de 300, 500, voire 600 000 civils et de plus de 100 000.